Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, bonjour! Vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako. Je suis Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de Contact, et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro. Au programme aujourd'hui, Bamako qui recadre les ex-puissances coloniales, des doutes à Washington sur la livraison d'armes à Kiev, et l'Égypte qui réfléchit à commercer en devise locale avec certains pays des BRICS. Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg a débuté. Le président de la Chambre de commerce ivoiro-russe ainsi que trois hommes d'affaires ivoiriens exposeront leurs attentes. Le président kényan a récemment prôné pour la création d'une monnaie commune au continent africain. Un économiste malien analysera à notre micro cette initiative. L'Afrique a beaucoup y gagné en développant ses relations avec les BRICS et la Russie. Un chef d'entreprise gabonais de passage à Moscou nous dira pourquoi. Les États-Unis pourraient envoyer des munitions à uranium appauvries à l'Ukraine. Un analyste français nous décryptera les dessous de cette position américaine. Le colonel Assimi Goïta, chef de la transition malienne, s'est entretenu par téléphone avec le président russe Vladimir Poutine. Les deux dirigeants ont abordé les liens commerciaux et économiques, notamment l'approvisionnement du Mali en blé russe, ainsi qu'en engrais et en carburant. Selon le communiqué du Kremlin, Assimi Goïta a remercié Vladimir Poutine pour l'aide humanitaire fournie, ainsi que pour le soutien pour assurer la sécurité, neutraliser la menace terroriste et stabiliser la situation sur tout le territoire malien. Lors de cette conversation, les dirigeants ont confirmé l'intention mutuelle de renforcer davantage les relations russo-maliennes, traditionnellement amicales. Dans son discours à l'occasion des célébrations de la Journée de la Russie, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a également fait l'éloge des relations entre les deux pays. Un autre sujet important qu'il a abordé dans son propos était celui des droits de l'homme. Le chef de la diplomatie malienne a déclaré que son pays ne souhaite ni l'instrumentalisation, ni la politisation de ses droits. Il a rappelé que cette question n'est l'apanage d'aucun pays, ni d'aucune civilisation, et qu'il était étonnant que certains pays qui ont pratiqué l'esclavage ou la colonisation soient aujourd'hui ceux qui donnent des leçons aux autres en matière de droits de l'homme. Monsieur Diop a pris l'exemple de la Palestine en affirmant que beaucoup préféraient regarder ailleurs, plutôt que de parler de droits de l'homme dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Il a ensuite souligné que la vie humaine avait le même prix, où qu'elle soit, en Ukraine, au Sahel, en Palestine ou en Amérique latine. La livraison d'armes des États-Unis en Ukraine se fait de façon très opaque. Le bureau de l'inspecteur général de l'armée américaine a déclaré dans un communiqué que l'inventaire fourni par Washington sur les livraisons d'armes à Kiev n'est pas assez complet. Sur le dernier état des lieux publié en février 2023, les États-Unis annonçaient que 31,7 milliards de dollars d'équipements avaient été expédiés en Ukraine via l'aéroport polonais de Jasionka. Toutefois, l'audit de l'inspecteur général a estimé que cela était trop flou. L'organisme de contrôle a estimé que le ministère ne disposait pas de moyens de contrôle suffisants pour pouvoir dire avec certitude que l'inventaire du matériel envoyé en Ukraine à travers cet aéroport polonais était complet ou exact. Pour le bureau de l'inspecteur général, il n'est pas possible de pouvoir comparer avec précision le nombre d'équipements reçus par rapport à ceux qui ont été expédiés dans 3 des 5 évaluations réalisées par l'administration. Ce nouveau couac administratif ne semble pas calmer les ardeurs de l'administration présidentielle qui va accorder un nouveau plan d'aide militaire à l'Ukraine d'une valeur de 325 millions de dollars. Une décision qui ne va pas calmer la grogne de nombreux électeurs républicains. Un sondage du Pew Research Center en février dernier indiquait que 40% d'entre eux estiment que l'aide militaire accordée à Kiev est trop importante. Le Caire a déposé une demande d'adhésion aux BRICS. Cette information a été confirmée par l'ambassadeur russe en Égypte, Georgi Borisenko. Selon le diplomate, le pays nord-africain est particulièrement intéressé par la dédollarisation et l'initiative du groupe des 5 de faire un transfert maximal du commerce vers des monnaies alternatives, qu'il s'agisse de monnaies nationales ou de la création d'une sorte de monnaie commune. Le ministre égyptien de l'approvisionnement, Ali Mosseli, a déjà annoncé que des discussions ont démarré avec des pays des BRICS afin de commercer en devise locale. Il a toutefois tenu à démentir le projet d'ouverture d'une ligne de crédit avec l'Inde afin de faciliter ses paiements, qui avait été annoncé précédemment par un média américain. Pour rappel, le Caire a démarré son rapprochement avec les BRICS, composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud en adhérant à la nouvelle banque de développement. Cette institution financière porte les projets du groupe des 5 et souhaite se positionner comme une alternative à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international. Le pays des pharaons continue d'entretenir de bonnes relations avec Moscou. La construction de la première centrale nucléaire du pays à El Daba est assurée par le géant russe Rosatom. Pour faire face à l'intérêt des touristes en provenance de Russie à ces stations balnéaires, le Caire réfléchit à des alternatives de paiement et l'adoption du système de paiement russe MIR pourrait être une solution. Chers auditeurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM depuis Bamako. Bienvenue à vous si vous venez tout juste de nous rejoindre. Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg a démarré. L'événement, avec plus de 20 ans d'histoire, attire annuellement des milliers de participants et visiteurs et accueille également des chefs d'État, de hauts responsables et des experts en provenance de multiples pays. L'édition 2023 n'y fait pas exception. Le Forum a réuni plus de 17 000 personnes de 130 pays et territoires, une nouvelle preuve que toutes les tentatives de l'Occident pour isoler la Russie ont échoué. Au micro de Spoutnik Afrique, Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, nous a justement confié que Moscou est très loin d'être mis au ban des nations.
Un sixième de la Terre ne peut être isolé. Un pays qui s'est enfin reconnu comme un pays civilisation ne peut être isolé. Un pays, un peuple et un État qui honore son histoire, la connaît et la transmet aux générations futures ne peut être isolé. Ce ne sont que certains groupes qui peuvent s'isoler de nous. Mais il est tout simplement impossible de nous isoler. Nous devons simplement clore cette question une fois pour toutes. Nous en parlons tant, nous avons tant de questions et tant d'arguments. Pour clore le sujet, il y aura des tentatives d'isolement. L'isolement de la Russie est-il possible? Non. Cela a déjà été prouvé.
Cette année, le thème de ce forum est la souveraineté économique. C'est justement ce dont recherche l'Afrique. À Saint-Pétersbourg, le continent africain a répondu présent et de nombreux chefs d'État sont attendus. Une rencontre entre des représentants africains et le président russe Vladimir Poutine doit se tenir le 17 juin. La Côte d'Ivoire a fait le déplacement dans cette ville russe qu'on appelle la Venise du Nord. Au micro de mon collègue Kamal Louadj, présentateur de l'émission L'Afrique en marche, Henri Douété, président de la Chambre de commerce et de l'industrie ivoiro-russe, a dévoilé les attentes de son pays vis-à-vis de ce forum.
Le thème de ce forum est la souveraineté économique pour un monde juste, pour un développement dans un monde juste. Alors, cette question de la souveraineté, comment vous l'intégrez actuellement dans la politique extérieure du pays, économique en particulier, et comment vous voyez la coopération justement, pas uniquement avec la Russie, mais avec tous les pays justement qui défendent ce principe-là de la souveraineté des États-nations et pour une coopération entre États-nations.
Nous voulons la souveraineté, et nous la voulons réellement. Et nous discutons avec nos partenaires pour leur faire comprendre que c'est nous qui choisissons. C'est selon notre volonté qu'ils viendront être avec nous pour coopérer. Donc, je suis en Côte d'Ivoire. C'est mon gouvernement qui choisira les thèmes, les choix de ce que je veux, de ce qu'il veut pour son développement. On n'a pas à lui imposer le développement. On n'a pas à lui dire « il faut faire ça ». Je lui donne ça. Il faut faire ça, pas avec celui-ci, mais avec celui-là. Mm-hmm. Non, c'est moi qui décide. Je veux avoir des rapports, soit avec l'Algérie, soit avec le Maroc, sur le plan africain, soit avec l'Afrique du Sud, ou bien je veux avoir des rapports avec la Russie, la Chine, l'Amérique et l'Europe. C'est moi qui choisis. Ce n'est pas l'Europe qui m'impose, mais la France qui m'impose. Mm-hmm. Non. Si la France veut négocier avec moi, elle négociera sur la base de ce que je veux. Pas sur la base, c'est ce qu'elle veut. Mm-hmm. C'est très simple. C'est très simple.
Donc, justement, de ce point de vue, la question des échanges économiques dans les monnaies nationales prend de plus en plus de l'ampleur actuellement et devient un sujet central dans tous les forums économiques internationaux, mais notamment en Afrique. Les Africains, ils se rebellent de plus en plus et refusent catégoriquement qu'on vienne leur imposer une monnaie d'échange quelconque. Comment vous voyez cette question-là notamment dans ce contexte de l'émergence d'un monde multipolaire, pas uniquement politique, mais aussi économique. Et je voudrais aussi après vous poser la question sur la question de la monnaie commune des BRICS.
Vous voyez, vous tapez ma monnaie chez vous. C'est vous qui imposez.
Vous voulez dire la France Oui, pas ça dans par rapport au franc CFA.
C'est vous qui imposez.
Ouais.
Moi, je n'ai aucun droit. Ouais. Et cette monnaie que vous m'imposez n'a aucune valeur. Aucune valeur. Elle peut pas être changeable ailleurs. Il faut que je passe par votre monnaie pour que je puisse changer. C'est pas normal.
Et surtout actuellement...
Normal. Mmh. C'est pas normal. Il faut que je tape ma monnaie. Ou bien que l'Afrique se regroupe pour avoir une monnaie unique. Si ce n'est pas possible dans les premiers temps, avoir une monnaie même confédérale. C'est-à-dire on fait une fédération au nord de l'Afrique, on fait une fédération au centre de l'Afrique, on fait une fédération régionale, et après on essaye de faire une confédération pour dire, bon, tout ce qui concerne la monnaie, l'armée, tout le reste, c'est dans le cadre confédéral. Et là, les gens savent. Et ma monnaie est convertie partout où je veux. Parce que là, actuellement, ce que nous vivons, nous sommes encore colonisés.
Absolument.
Nous sommes colonisés.
Je rappelle pour nos auditeurs, en tout cas, on est sur Spoutnik Afrique, donc les Africains le savent très bien. Le franc CFA, il est imprimé en France par la Banque de France en contrepartie de dépôt de 50% des réserves de devises de chaque pays membre de la zone franc CFA. Laisse continuer.
Donc, pour nous, il serait bon que nous réunissons, nous fédérons pour faire une monnaie. Une monnaie à nous. Tapis chez nous. Non, où il n'y a pas d'ingérence. C'est tout ce que nous demandons. Parce que l'esprit de la monnaie, c'est De Gaulle qui l'a institué.
Ouais.
Et il l'a institué à l'image de l'Allemagne. Quand eux, ils étaient sous domination allemande.
Sous domination allemande, oui.
Sous domination allemande.
C'est...
Vous voyez ?
Oui.
Et depuis combien d'années ça dure ?
Et donc là, pour votre pays, vous envisagez quoi ? La question d'avoir une monnaie nationale ou régionale qui soit indépendante de la...
On aimerait bien.
Du franc CFA ?
Ah oui. Moi, personnellement, je suis pour que mon pays quitte le franc CFA.
D'accord.
Que mon pays quitte le franc CFA. Quitte à faire des monnaies. Une monnaie avec d'autres pays africains. Quitte à faire une monnaie ivoirienne qui est convertie dans les autres pays. Ou sinon, mon idéal, c'est d'arriver à faire une monnaie de l'Afrique de l'Ouest commune.
Mais c'est-à-dire, vous voulez dire une monnaie de l'Afrique de l'Ouest commune, mais qui soit créée et imprimée et contrôlée par les pays de la région de l'Afrique de l'Ouest, pas par un autre pays tiers ou une banque internationale.
Ça, voilà.
D'accord. D'accord, c'est très, très intéressant et c'est très courageux de votre part. Donc, ma question suivante est le sommet des BRICS qui va se tenir au mois d'août. L'une des questions qui seront...
En Afrique du Sud.
En Afrique du Sud, oui. Donc, l'une des questions qui seront débattues, c'est justement la question de la création d'une monnaie commune entre les pays des BRICS, mais qui sera après ouverte à tous les pays qui désirent de commercer avec cette monnaie. Est-ce que pour vous, cette question-là de la monnaie commune des BRICS est une chance justement pour les pays africains pour s'émanciper de la dictature du dollar ou du franc CFA ou de l'euro.
Elle est bienvenue. Elle est bienvenue, cette monnaie. Elle est bienvenue pour l'émancipation de l'Afrique et au-delà même de l'Afrique. Cette monnaie est bienvenue. Qu'il la fasse le plus tôt possible.
D'accord. D'accord. Alors, et un autre thème, Monsieur Henri, c'est la coopération technico-scientifique et technologique avec la Russie. Il y a le président Poutine qui a pris une décision dernièrement d'augmenter massivement les nombres de bourses et de programmes de coopération scientifique et technologique avec les pays africains. Alors j'aimerais savoir si la Côte d'Ivoire a des idées ou des projets ou déjà des choses qui sont en cours et quels sont les domaines qui l'intéressent le plus.
Et pour la Côte d'Ivoire, tout ce qui est scientifique nous intéresse. Déjà même tout ce qui est médical.
D'accord.
Ce médical nous intéresse parce que nous n'avons pas assez d'hôpitaux. Et la Russie peut... Ce que je demande moi à la Russie, c'est de se décompresser. L'Afrique n'appartient pas à personne.
Se décomplexer, est-ce que vous pouvez expliquer, parce que c'est très important, ce que vous voulez d'évoquer là.
Parce que La Russie a aidé l'Afrique,
l'Union soviétique,
a aidé l'Afrique au moment des guerres d'émancipation. Beaucoup. Si les pays comme l'Angola, comme la Mozambique, comme d'autres pays africains ont été libérés, c'est grâce à la Russie, c'est grâce à l'URSS. Donc, pour nous, elle a mis un écart à un moment donné. Elle s'est retirée pendant 30 ans à ne pas être auprès de l'Afrique. Elle croit que l'Afrique est la part d'autres nations.
Et la chasse gardée d'autres nations.
Et l'Afrique n'est pas la chasse gardée des nations. L'Afrique est elle-même. Elle est elle-même. Et choisit ses partenaires. Il ne peut pas se regarder. Donc, il faudrait que la Russie vienne. Et ne vienne pas timidement.
D'accord.
Ne soit pas décomplexée. Et se décomplexe. Il faut qu'elle vienne en Afrique. Et sera reçue comme tout le monde. À moins que, pour qu'elle soit reçue, il faudrait que lorsqu'elle travaille, de la matière première à la matière finie, tout ça transformé sur le continent africain.
Justement, cette question que vous évoquez est très très importante parce que il ne peut pas y avoir justement de souveraineté que dans n'importe quelle région du monde, dans n'importe quel pays, mais en particulier en Afrique, si les pays africains ne reprennent pas le contrôle de leurs matières premières, mais aussi s'ils ne prennent pas la décision de les transformer localement. Il faut, moi j'ai eu plusieurs fois des invités qui m'ont dit qu'il faut constitutionnaliser des choses qui interdisent l'exportation, il faut le mettre dans la constitution, d'exporter des matières premières brutes. Il faut les interdire. Sauf quand c'est dans des proportions raisonnables parce que il y a un excès qu'on n'arrive pas à transformer complètement, on l'y autorise. Alors, j'aimerais bien vous entendre sur cette question-là et aussi avoir une idée sur la vision de la Côte d'Ivoire par rapport à ce problème.
La Côte d'Ivoire fait un effort énorme pour mettre ses produits en transformation sur son territoire. Elle fait un effort énorme. Mais ce n'est pas encore plausible. Je prends l'exemple d'un pays comme la Malaisie. La Malaisie a la même superficie que nous, a la même richesse que nous, tout. Mais la Malaisie, aujourd'hui, transforme ses matières premières. Mmh. Elle impose ses prix. Ses prix ne viennent pas d'ailleurs. Si vous lâchez, vous lâchez, vous ne voulez pas, vous partez. Mais la transformation de la matière première vers la matière terminée, c'est fait en Malaisie. Donc, je voudrais que la Côte d'Ivoire prenne cet exemple. Et on dirait à la Côte d'Ivoire que l'Afrique prenne cet exemple. Il faut transformer nos matières premières. L'or, il faut le transformer. Le diamant, il faut le transformer. Manganèse, il faut le transformer.
Le fer, l'aluminium.
La bosse, il faut le transformer. Il faut pas qu'on prenne ça comme ça, qu'on amène à l'essayer et qu'on le revende encore.
Et encore, c'est-à-dire l'exportation des matières premières ne rapporte pas déjà beaucoup. Et en plus de ça, l'argent que les pays exportateurs gagnent, ils le dépensent dans l'importation des produits finis.
Donc il faut arrêter. Il faut que nous prenions conscience de ça. Il le faut.
D'accord. Encore une autre question, c'est par rapport justement dans le même sens, c'est par rapport à cette nouvelle réorganisation du monde qui est en gestation, qui est en formation de plus en plus rapidement, ce monde multipolaire. Est-ce que, comment vous voyez la position de l'Afrique et aussi de la Côte d'Ivoire par rapport à cette situation? Est-ce que cette situation offre justement une chance à l'Afrique de s'émanciper?
Comment vous voulez qu'un seul pays ait le monopole de tout? Comment vous voulez qu'un seul pays ait le monopole de tout? Décide, impose sa culture malsaine. C'est sa méthode de la démocratie. Non. On ne peut pas être seul diriger le monde. Il faut qu'il y ait une contrepartie. Il faudrait qu'il y ait une contrepartie. Et le monde qu'on a dirigé, ce monde, on a toujours mis ce monde-là dans la destruction.
Dans des situations de guerre, de conflit.
Dans la destruction.
D'appauvrissement.
Je prends l'exemple d'un pays de mon continent, la Libye. La Libye. Quelle que soit la méthode que le gars gouverne, quelle que soit la méthode qui dirige son pays, si son peuple est heureux, quel est votre problème pour aller détruire ce pays-là? Soit par la deux, soit disant la démocratie. La démocratie. Quelle démocratie? Non, soyons sérieux. Aujourd'hui, le peuple libyen traîne, a des problèmes. Et ces problèmes ont entraîné ce qu'on appelle les djihadistes.
Donc, il y a une toute petite question par rapport juste à l'approvisionnement en céréales. Est-ce que les sanctions qui ont été prises à l'encontre de la Russie continuent à entraver cette question-là? En deux minutes seulement, s'il vous plaît.
Non, parce que... Macky Sall, le président du Sénégal, est venu ici. Il a plaidé pour l'Afrique. Pour qu'on envoie du blé tout ça en Afrique. Et le président Poutine a admis ça. Mais le blé n'est pas arrivé en Afrique.
Ouais.
Le blé n'est pas arrivé en Afrique. Donc, vous voyez, c'est pas...
C'est pas normal.
C'est pas normal.
D'accord. Ben, je vous remercie, monsieur Henri Douetaille, pour cet entretien, pour votre franchise et votre courage politique. Vous avez tenu un discours que je n'ai pas l'habitude d'entendre. Merci beaucoup.
Merci. Je vous remercie.
C'était Henri Douété, président de la Chambre de commerce ivoiro-russe pour Sputnik Afrique. À l'occasion du Forum économique de Saint-Pétersbourg, il a exposé les attentes de son pays et est revenu sur le rôle joué par l'URSS aux pays africains lors des guerres d'émancipation du joug colonial. Mesdames, messieurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Je vous souhaite la bienvenue si vous venez tout juste de régler votre poste de radio sur 99.5 FM. Le Forum économique de Saint-Pétersbourg intéresse les hommes d'affaires africains. De nombreux acteurs de l'économie africaine ont arpenté les couloirs de cet événement à la recherche de nouvelles opportunités économiques en vue d'élargir davantage la coopération avec la Russie. Mon collègue Kamal Louadj, présentateur de l'émission L'Afrique en marche, a pu s'entretenir avec trois hommes d'affaires ivoiriens. Écoutons-les tout de suite.
Ma première question, je l'adresse à vous trois. Comment vous avez trouvé le forum d'abord ? Et puis, dans les domaines qui vous intéressent spécifiquement, est-ce qu'il y a des opportunités que vous voyez possibles dans la coopération avec les entreprises russes ?
Ok, Nkrago Sawa. D'abord, avant tout propos, je tiens à remercier cette radio qui nous invite et qui veut nos avis concernant ce forum. Un forum qui est à nos yeux bien organisé et le milieu dont la plateforme où nous devions rencontrer des entreprises, elles sont présentes. Mais en tout cas, nous sommes très satisfaits pour l'instant de comment les choses se passent.
D'accord. Et donc, dans le domaine, par exemple, monsieur Aristide, dans le domaine de la marine marchande, qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il y a des choses, des opportunités ? Comment pensez-vous la coopération avec les entreprises russes ?
Alors, merci beaucoup, monsieur. D'abord, ce forum est organisé dans le but de tisser des partenariats entre la Russie et les pays africains. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes déplacés pour venir et participer donc à ce forum que nous trouvons très intéressant, très instructif et qui donne l'ouverture sur pas mal de bonnes choses. Alors, pour répondre à votre question, je dirais que oui, nous avons trouvé des stands qui, n'est-ce pas, exposent clairement des sociétés russes dans le sens... ou du moins dans le domaine maritime que j'ai eu avec le PCA et le DG Guingamp à rencontrer. Et déjà nous sommes en pourparlers pour, on va dire, une éventuelle relation d'affaires. Donc je trouve que c'est très intéressant cette exposition et cette ouverture, n'est-ce pas, pour nous qui venons de l'Afrique, qui souhaiterons donc travailler avec la Russie.
D'accord. Et donc vous, dans le domaine de l'immobilier, est-ce que c'est le même sentiment ? Il y a des opportunités ? Vous avez trouvé ce que vous cherchez, au moins du moins partiellement ?
Tout d'abord, je tiens à remercier la chaîne qui nous permet de pouvoir s'exprimer. Évidemment, ce forum est une lucarne vraiment appropriée pour nous en tant que chef d'entreprise pour essayer de voir d'autres chef d'entreprise pour essayer d'échanger des domaines d'activité qui nous incombent. Par exemple, j'ai eu à voir des entreprises sur l'espace du forum qui sont dans le domaine de l'immobilier, qui ont vraiment de l'expertise. Et cela pour nous intéresser pour nos pays, nos pays que nous représentons, qui est la Côte d'Ivoire.
Il y a eu, par exemple, durant le Covid, une expérience qui s'est faite en Chine et ici en Russie. Mais en Chine, ils étaient plus rapides. C'est la construction d'un hôpital dans des délais records. Ici, ils ont construit un très grand hôpital, par exemple, dédié aux infections respiratoires en 3 mois. En Chine, ils l'ont fait en 10 jours. En 3 mois aussi, c'est pas mal.
C'est pas mal, vraiment, bien sûr. Parce que nous, en Afrique, le besoin de logement existe. C'est très, très, très cruel. Et si cette expertise-là peut nous apporter en domaine d'immobilier pour combler le gap, vraiment, c'est la bienvenue. C'est pour ça que nous sommes là, pour tisser des partenariats.
D'accord. Bien. Alors maintenant, je reviens à vous, monsieur le
PCA.
Monsieur le PCA. Alors, le thème de ce forum, c'est le développement souverain comme fondement d'un monde juste. Donc, c'est vraiment la question de la souveraineté, que réclament beaucoup de pays, notamment africains, et qui cherchent à avoir et des politiques et des moyens politiques, les moyens nécessaires à leur politique, mais qu'elles soient autochtones, ou dans des partenariats, disons, où les deux parties sont respectées, se respectent et coopèrent dans des projets gagnant-gagnant. Alors, comment voyez-vous, est-ce que ce thème est approprié?
Mais il faut le dire, il y a toute chose en son temps. Et ce temps-là, il est là. Et ce thème vient en son temps et il est approprié. Et s'il fallait dire autre chose, je dirais que non, il est approprié, c'est maintenant qu'il faut. Parce que on est à un temps où il faut travailler librement, travailler avec beaucoup de dignité, d'équité, d'égalité et de liberté. Donc, ces entreprises que nous portons ne demandent que ça. Et cette ouverture que la Russie fait, vraiment nous disons que c'est une bonne chose et c'est le moment qu'il faut. Et l'Afrique n'attend que ça. Donc c'est une très bonne chose.
Et dans ce sens, cher monsieur, donc est-ce que les sanctions occidentales contre la Russie, vous pensez que Elles entravent les échanges, elles peuvent entraver dans le futur, ou que on peut les contourner et faire et travailler ensemble entre la Russie et les pays africains?
Nous pensons que tout ce qui est juste, tout ce qui est honnête, logiquement, ne devrait pas avoir d'entrave. Et donc, si c'est ce que porte la Russie, et c'est ce que veut la Russie pour les autres pays du monde, mais c'est encouragé, et c'est ce qu'il faut. Et je pense que c'est ce que l'Afrique attend. Et nous pensons que les autorités politiques de l'Afrique, en mon sens, regardent tous dans ce sens-là, je crois.
D'accord. Alors, dans ce domaine, est-ce que l'idée, la question est pour vous, Monsieur Aristide, l'idée que les pays reviennent et des monnaies nationales frappées chez eux, qui reflètent vraiment la souveraineté et politique et économique, est nécessaire à votre avis pour justement avoir ce boom économique espéré?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, je pense que qui parle de développement, qui parle de souveraineté, parle de monnaie juste, parle de monnaie à sa guise, mais une monnaie qui est contrôlée par l'Occident ou par l'étranger, c'est difficile d'être libéral. Donc, en ce sens-là, je pense que pour l'équité ou le juste dans la souveraineté, il est important que les pays africains aient leur propre monnaie. Et ça, c'est une évidence pour pouvoir espérer prospérer, pour pouvoir espérer, donc, si vous voulez, libéral. Donc, c'est vraiment important et c'est très capital pour moi.
D'accord. Alors, dans ce... Monsieur Ngongan, dans ce domaine, justement, vers la fin août, le mois d'août, en tout cas, il y a le sommet des BRICS qui se tiendra en Afrique du Sud. Et l'une des questions qui seront traitées, c'est justement la création d'une monnaie commune pour les pays des BRICS, mais qui ne va pas uniquement concerner ces pays, qui va s'ouvrir à tous les pays qui désirent justement qui désireraient de commercer ou d'échanger dans une monnaie en dehors du dollar et de l'euro. Alors, est-ce que pour vous, c'est une opportunité? Comment vous voyez la chose? Et est-ce que aussi les BRICS pourraient justement amener ce que l'Afrique dont a besoin?
Je vous remercie. En fait, faut dire que quand on parle de monnaie, cela relève de la souveraineté des États. Mais nous, en tant que chef d'entreprise, c'est une opportunité quand il n'y a pas de barrières des échanges. Et cela profita pour nous en tant qu'opérateurs économiques. Donc c'est une bonne nouvelle si on doit faire une monnaie qui permettrait aux entreprises de pouvoir éclore les chiffres d'affaires, c'est la bienvenue. C'est le souhait de toute entreprise d'avoir des capitaux pour pouvoir travailler, des financements, des financiers, de d'autres pays pour permettre à les moins faibles de pouvoir aussi avoir des projets de développement pour les entreprises. Donc c'est la bienvenue. Cette monnaie que les États voudraient rendre commune sera profitable pour nous en tant que chef d'entreprise.
D'accord. Et concernant la décision qui a été prise par M. Poutine dernièrement d'augmenter massivement les programmes de coopération dans la formation technologique, technique, ingénierie, sciences, mathématiques, physique, chimie. Alors, est-ce que vous souhaitez justement qu'il y ait un apport dans la coopération russo-ivoirienne et dans la formation justement, parce que je crois que vous serez d'accord avec moi, il ne peut pas y avoir d'industrie ou de business sans ingénieurs et techniciens.
Absolument. La preuve, si nous sommes là, nous avions parcouru pour la première fois des milliers de kilomètres pour être ici en Russie pour la première fois. Si nous ne croyons pas à ce rêve, à ce projet et porté de main de maître par le président Poutine, pour nous dirons que c'est divin et que le plus tôt serait le mieux. Et des pays comme la Côte d'Ivoire, comme les autres pays d'Afrique, surtout l'Afrique, cette opportunité, elle est pour nous peut-être unique. Donc, il faut saisir cette opportunité-là qui est juste et vraie, qui va permettre à l'Afrique de se remettre sur scène pour avancer. D'accord. Donc, c'est une très bonne chose.
D'accord. Donc, et dans ce sens, les Africains ont toujours prôné la question d'arrêter d'être le vivier des matières premières et de prendre l'initiative de développer les pays pour que ces matières premières soient transformées chez eux. Moi, j'ai reçu des gens qui ont même dit que les pays africains devraient même mettre dans leur constitution des articles qui interdisent l'exportation des matières premières et qui obligent les pays à les transformer. Est-ce que, donc, dans ce domaine, les BRICS en général, mais aussi la Russie, la Chine, vous pensez qu'ils peuvent être d'un apport positif dans ce sens?
Moi, je pense que cette question, il faut dire qu'aujourd'hui, l'Afrique a un problème de chômage. Et cela est tout à fait vrai que si la résolution du problème de chômage, c'est un paradoxe, puisque l'Afrique dispose des ressources. Et en même temps,
absolument,
le chômage est cruel. Donc, c'est un point de transfert de technologie pour permettre vraiment de résoudre ce problème du chômage. Donc, l'idée de pouvoir faire le transfert de technologie est vraiment nécessaire pour l'Afrique et bénéfique. Parce que les ressources dans tous les domaines existent en Afrique. Sauf que c'est la technologie qui manque pour pouvoir résoudre le problème du chômage. Donc, vraiment, cette idée de transfert de technologie est la bienvenue pour les Africains.
D'accord. Ben, messieurs, je vous remercie pour votre gentillesse et pour nous avoir accordé cet entretien. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois.
Merci.
Et qu'on aura l'occasion de nous revoir à l'occasion du sommet Russie-Afrique.
Okay. C'est nous qui vous remercions
de nous avoir accueillis dans vos locaux. En tout cas, nous vous disons merci.
Merci beaucoup.
Merci.
C'était Aristide Kofi, David Gangan, et Pascal Sawa, homme d'affaires ivoirien pour Spoutnik Afrique. Depuis Saint-Pétersbourg, ils ont livré leurs impressions du Forum économique international qui a débuté aujourd'hui et dévoilé quelles opportunités offre la Russie afin d'élargir la coopération russo-africaine. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de Contact, je vous souhaite la bienvenue si vous venez tout juste de brancher votre poste de radio sur 99.5 FM. William Ruto, le président du Kenya, apprenait lors du récent sommet des dirigeants du marché commun de l'Afrique orientale et australe à Lusaka pour la création d'une monnaie unique africaine pour faciliter les échanges sur le continent. Selon le dirigeant kenyan, le lancement de cette nouvelle devise permettrait de se libérer de la dépendance du dollar qui pose souci à son pays pour importer et exporter des marchandises. Enfin, pour stimuler le commerce sur le continent, les pays africains pourront également compter sur la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF. Mise en place en 2021, cette zone est composée de 54 États africains sur 55, seule l'Érythrée n'a pas signé pour le moment l'accord. Toutefois, pour arriver à cet objectif d'accroissement des échanges commerciaux, des réformes sont nécessaires. Pour Hakainde Hichilema, le président zambien, il faut d'abord éliminer les postes de contrôle frontaliers afin de diminuer les coûts pour les entreprises et renforcer le commerce intérieur. Enfin, la sécurité et la stabilité sont deux conditions clés pour le développement économique et social du continent. Pour analyser en profondeur ces deux dossiers clés pour l'avenir du continent africain, je vous présente Modibo Mao Makalou, économiste malien. Écoutons-le. Au sommet des dirigeants du marché commun de l'Afrique orientale et australe à Lusaka, le président kényan, William Ruto, a appelé à introduire une monnaie unique africaine pour faciliter les échanges sur le continent. Comment voyez-vous cette initiative? Qu'est-ce qu'elle pourrait apporter aux pays africains?
Oui, en effet, le marché commun de l'Afrique orientale et australe est la plus grande organisation d'intégration économique en Afrique avec 19 membres. Et évidemment, ça a un potentiel d'investissement assez intéressant de plus de 100 milliards de dollars, notamment dans le domaine commercial et d'investissement non exploité. Donc, il s'agit de mettre en place des mécanismes qui vont quand même faire fructifier les échanges entre les 19 États membres, vu que l'union douanière avait déjà été lancée depuis 2009. Et c'est dans ce cadre que du 20e sommet qui s'est tenu des chefs d'État et de gouvernement du marché commun de l'Afrique orientale et australe qui s'est tenu à Lusaka en Zambie le jeudi 8 juin 2023 que le président Ruto a déclaré que l'intégration régionale signifiait que les citoyens n'auraient pas à se soucier de la devise avec laquelle échanger. Je le cite, « Notre peuple ne peut pas commercer sans se soucier de la devise à utiliser. Ceci, entre autres, barrière non tarifaire est un problème que nous devons attaquer de toute urgence afin que nos peuples puissent commercer ensemble et à s'intégrer », a déclaré le président kényan. Il s'agit de renforcer le commerce, mais vous savez qu'en Afrique aujourd'hui, l'une des barrières, c'est la monnaie. L'intégration régionale ne peut être pleinement réalisée que si les citoyens n'ont plus à se soucier de la devise utilisée lors des échanges commerciaux. Donc, évidemment, cela pourrait favoriser les échanges et l'intégration entre les pays africains en créant une monnaie unique africaine, ce qui est l'objectif de l'intégration africaine depuis la création de l'Organisation de l'Unité africaine pour que les pays africains puissent échanger davantage entre eux, car en ce moment, il y a 55 pays au sein de l'Union africaine avec 40 monnaies, ce qui ne facilite pas les échanges.
Le sommet a décidé de renforcer les efforts pour actualiser le commerce et l'intégration régionale. Quel rôle pourrait jouer la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, pour dynamiser le commerce intra-africain et la croissance des pays?
Effectivement, la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, qui contient 54 pays africains sur 55, parce que ce sont ces 54 pays qui ont signé l'accord portant création de la ZLECAF, le premier objectif est de créer un marché unique continental pour les biens et les services, avec la libre circulation des personnes, des biens et des investissements, et puis ce qui pourrait ouvrir la voie à l'accélération de l'établissement de l'union douanière continentale. Cela va permettre non seulement de relancer les économies africaines, mais la ZLECAF aussi vise à stimuler le commerce intra-africain des marchandises par l'élimination progressive des tarifs douaniers, des barrières non tarifaires et le développement et la promotion des chaînes de valeur au niveau régional et continental. Il est prévu, parce que la zone de libre-échange continentale africaine a été opérationnalisée le 1er janvier 2021, que dans les 5 années suivant sa mise en œuvre, elle vise à supprimer plus de 90% des droits de douane sur les biens échangés entre les États membres et dans les 10 ans qui suivent, au moins 97% des droits de douane devraient être supprimés. Donc, il s'agit de mettre en place un marché unique continental, comme je l'ai dit, et selon des études, celui-ci pourrait accroître le revenu régional de 7%, soit 450 milliards de dollars additionnels, et sortir 30 millions de personnes de l'extrême pauvreté d'ici 2035. Il faut reconnaître que déjà en ce moment, les échanges intra-africains sont de l'ordre de 17%, contre près de 60% en Asie et 70% entre les nations européennes, selon Afrexim Bank.
Monsieur Ruto a également déclaré que le Kenya avait eu des difficultés à exporter et à importer des produits dans certains pays en raison des défis du dollar américain. En cas de création, la monnaie unique africaine est-elle capable de défier le dollar avec le temps en prenant de plus en plus de place dans les échanges entre les États africains et peut-être même en dehors du continent?
Comme vous le savez, avec les échanges internationaux, ce sont les devises qui permettent de faire des transactions internationales, surtout en ce qui concerne les importations, c'est-à-dire les achats de biens et de services à l'extérieur. Parce qu'il faut nécessairement se procurer des devises pour pouvoir commander des marchandises ou des biens et des services à l'extérieur. Et parmi ces devises, vous en avez 5 essentiellement, le dollar américain, l'euro, le dollar canadien, le yen britannique et le yen japonais, pardon, et la livre sterling britannique. Ce sont les 5 principales monnaies internationales. Évidemment, pour obtenir des dollars, 80% des échanges internationaux se font encore avec du dollar. Il est difficile pour les banques centrales de se procurer des dollars en ce moment avec les sanctions et les difficultés auxquelles font face le dollar américain et les finances publiques américaines. Récemment, avec la hausse aussi des taux d'intérêt aux États-Unis pour lutter contre l'inflation. Donc, ce qui rend les transactions internationales difficiles pour les banques centrales des pays, surtout des pays comme les pays africains, qui sont des nets importateurs, parce que nos pays africains exportent des biens non manufacturés, importe des biens manufacturés et notre balance commerciale est souvent, et notre balance des paiements sont souvent déficitaires. Ça veut dire que nous envoyons plus d'argent à l'extérieur, nos transactions avec l'extérieur sont déficitaires. Donc nous envoyons plus d'argent à l'extérieur, donc plus de devises à l'extérieur que nous ne recevons des devises avec nos importations, nos exportations. Donc, cela pose un problème auquel le président Ruto demande de faire face dans le cadre de l'intégration africaine.
C'était Modibo Mao Makalu, économiste malien pour Spoutnik Afrique. À notre micro, il a commenté l'idée du président kényan de créer une monnaie commune au continent africain et a estimé que la zone de libre-échange africaine pourrait permettre au continent africain de stimuler le commerce sur le continent et de sortir 30 millions de personnes de l'extrême pauvreté d'ici à 2035. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique. Ici l'émission Zone de Contact présentée par Anthony Lefebvre. Bienvenue à vous si vous venez tout juste de nous rejoindre. Les États-Unis pourraient emboîter le pas à la Grande-Bretagne. Selon un média américain, l'administration Biden envisage de fournir à l'Ukraine des obus à uranium appauvri. Un haut responsable américain indiquait à la publication qu'il ne semblait qu'aucun obstacle majeur ne fasse face à l'approbation de l'envoi de telles munitions. Pour rappel, l'utilisation de telles armes cause des effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Washington n'a eu aucun remords à en faire usage en Irak et en Yougoslavie. De nombreux cas de cancer et de maladies rares ont depuis été détectés dans ces régions où les sols ont été contaminés par l'utilisation de ces armes. Avant Washington, Londres avait pris la décision de transférer ses munitions à uranium appauvri en Ukraine. En mai dernier, celles-ci ont été détruites et ont entraîné la formation d'un nuage radioactif qui s'est ensuite dirigé en Europe. Une hausse de la radioactivité avait notamment été enregistrée en Pologne. Pour décrypter les dessous de cette décision américaine, je vous présente Xavier Moreau, fondateur et directeur du Centre d'analyse politico-stratégique StratPol. Écoutons-le. Première question que je souhaiterais vous poser. Selon un média américain, la Maison-Blanche est sur le point d'approuver la fourniture d'obus de chars à uranium appauvri. En mars dernier, le porte-parole de la Maison-Blanche, John Kirby, avait déclaré que les USA ne suivraient pas l'exemple du Royaume-Uni qui avait pris cette décision. Et qu'est-ce qui a fait changer d'opinion Washington depuis, selon vous ?
Déjà, il faut quand même être prudent avec cette déclaration qui, je crois, vient du Wall Street Journal, c'est-à-dire que ça n'a pas été confirmé par Washington. Ensuite, il faut voir que la livraison d'obus à uranium appauvri par l'Angleterre avait, c'était presque une obligation technique, parce que, pour être un peu technique précisément, le canon de 120 mm Challenger est un canon rayé, qui le rend plus précis et lui permet de tirer jusqu'à 2500 mètres. Le problème, c'est que la munition est moins rapide à la sortie, donc en fait, pour faire court, il faut augmenter la masse volumique de la munition, de la flèche qui tire, et donc il faut un matériau extrêmement avec une masse volumique très très importante, et les Britanniques ont choisi l'uranium appauvri. Donc c'était un peu une obligation, parce que du point de vue des obus flèches, je crois qu'ils n'ont que ça à disposition. Donc c'était ça, ou les 14 Challenger qui ont été livrés ne pouvaient tout simplement pas tirer d'obus flèches. Pour Washington, c'est un peu différent, parce que déjà, ils disposent d'obus flèches, je crois, avec un cœur en titane, donc c'est pas systématique d'envoyer de l'uranium appauvri. Donc moi, j'attends la confirmation du ministère de la Défense. Et en tout cas, si jamais ils en sont réduits à fournir des obus à uranium appauvri, ça peut vouloir dire aussi qu'ils n'ont plus que ça. Et que là aussi, il y a une obligation, je dirais, technique, c'est que les stocks sont épuisés. Maintenant, c'est officiel, c'est-à-dire que les armées occidentales, même les États-Unis, sont sous-alimentées en quelque sorte en matière de munitions. Et les munitions de chars, notamment les obus flèches, c'est quelque chose qui coûte cher. Et donc, visiblement, les stocks étaient réduits pour tous les pays de l'OTAN.
Washington avait déjà utilisé ces armes en Irak et en Yougoslavie, et elles ont entraîné une forte hausse des cancers. Un média américain avait rapporté que certains responsables de la Maison-Blanche avaient toutefois exprimé leurs inquiétudes quant au risque pour la santé humaine et pour l'environnement que représentent ces armes. Et pourquoi, malgré ces inquiétudes, aucun obstacle majeur ne s'oppose à l'approbation de sa fourniture à Kiev ?
Écoutez, ce genre de but, c'est pas fait pour défendre le territoire américain ou le territoire anglais, c'est pour être tiré sur un territoire dont réellement ni Washington ni Londres n'ont rien à faire. Que ça ait des conséquences sur le territoire qui, in fine, finira entre les mains de la Russie ou qui restera entre les mains de Kiev, pour Washington, ça n'a aucun intérêt. L'enjeu est ailleurs. L'enjeu, c'est d'essayer que la victoire russe, qui est inéluctable, coûte le plus cher possible, quitte à détruire une partie de l'environnement sur le territoire ukrainien. Et c'est, pour moi, c'est la question se pose même pas. Ça leur est, encore une fois, la vie des soldats ukrainiens ne compte pas pour l'OTAN, pas plus que la vie des civils. Donc, polluer une partie des territoires avec de l'uranium appauvri ne pose aucun problème.
Oui. On a également un autre risque avec l'envoi de ces armes, c'est celui des vols. Et récemment, on a des munitions à destination de l'Ukraine qui ont été volées dans un train spécial en Pologne qui se trouvait à proximité de la frontière avec l'Allemagne. Est-ce que, selon vous, la probabilité de vol de munitions à uranium appauvri est-elle plausible ?
Si on parle d'obus de chars de 120 mm, à mon avis, c'est pas très plausible, parce qu'il faut avoir l'équipement pour le tirer. Et un 120 mm anglais, ça doit être tiré avec un Challenger 2. Donc, si vous volez cette munition-là, ça veut dire que vous allez la vendre au noir à un pays qui possède des Challenger 2. Et, je crois pas qu'il y en ait beaucoup. Je crois même qu'il y a que l'Angleterre. Ce char, c'est pas exporté, ou très peu. Donc, je suis plutôt rassuré. En revanche, tout ce qui est armement léger, javelin, surtout ce qui est plus dangereux, c'est-à-dire les Stingers, les armes antiaériennes, qui peuvent être utilisées par n'importe quel groupe terroriste à l'aéroport Charles de Gaulle, à l'aéroport London Heathrow ou ailleurs, ça, ça va représenter un vrai danger. Et on a déjà connu ça après les guerres de Yougoslavie, où, je vous rappelle, le gang de Roubaix, hein, qui avait été des volontaires qui avaient été se battre avec les bosno-musulmans en Bosnie, à Herzégovine. Eh ben, ils étaient rentrés, ils avaient commencé à braquer des banques. Et avec leur expérience du combat, avec les armes dont ils disposaient, ça s'est fini quasiment en combat urbain contre les forces spéciales françaises. Donc, c'était pas un secret que dans toutes les banlieues françaises, il y avait trafic d'armes, d'armes légères. Je pense que aujourd'hui, le risque est plus là que sur le commerce de munitions comme ça aussi spécifique.
Récemment, on a également un autre facteur que les Occidentaux oublient, c'est celui de la capture de ces munitions par la Russie. Récemment, les militaires russes ont capturé des chars Léopard qui avaient été fournis à l'Ukraine. Et comment réagirait Moscou si ces soldats parvenaient à mettre la main sur ces munitions à uranium appauvri, selon vous ?
Ah, écoutez, alors dans les chars qui ont été pris, normalement, il n'y a pas d'obus à uranium appauvri. Hein. Dans les chars allemands, c'est un cœur en titane. Donc, c'est interdit d'ailleurs, pour des raisons écologiques, hein, c'est aussi autorisé en Angleterre, mais pas en Allemagne. Donc, pour l'instant, ils n'en ont pas capturé. Je pense que le problème pour l'Allemagne, c'est pas tellement la capture des munitions, c'est la capture. On a vu parmi les chars qui ont été détruits, il y a du Léopard 2 A6, c'est le dernier modèle, le plus récent de Léopard 2. Donc, ça veut dire que dedans, vous avez des systèmes conduite de tir, vous avez de l'électronique, vous avez des caméras thermiques, vous avez des caméras nocturnes, enfin tout un système vraiment high-tech, hein, les Allemands savent faire. Les Russes sont d'ailleurs un peu en retard dans certains domaines et évidemment qu'ils vont en profiter. Et puis, si vous voulez, le Léopard 2 A6 n'aura plus aucun secret pour l'armée russe. Et comme on voit la vitesse à laquelle les Russes se sont adaptés au HIMARS, au Storm Shadow, etc. Si en plus ils ont un exemplaire du Léopard 2 A6, alors là c'est une catastrophe. Je dirais même c'est une catastrophe pour les futures exportations de chars allemands vers des pays tiers, parce que qui va vouloir acheter un char dont un exemplaire a été capturé par la Russie et complètement désossé? C'est un problème qui va se poser sur tous les armements que l'OTAN a livrés, à mon avis, imprudemment à l'Ukraine.
Récemment, justement, vous parlez de la contre-offensive. On a une autre publication américaine qui a annoncé que le futur soutien financier de l'Ukraine dépendrait de sa contre-offensive actuellement en cours et qu'une défaite pourrait impacter la réputation de Joe Biden. Et est-ce qu'on doit croire à ces affirmations, selon vous ?
Je ne suis pas persuadé. Je pense que l'État profond qui soutient l'opération contre la Russie, de l'OTAN contre la Russie, joue quasiment son existence à l'international. Et donc, ils vont essayer de faire durer la guerre le plus longtemps possible pour que la Russie finisse, espèrent-ils, par en souffrir. Et pour l'instant, c'est pas du tout le cas, ni économiquement, ni humainement. Et du point de vue des relations internationales, c'est même l'inverse. En fait, on voit bien, au fur et à mesure que l'opération spéciale continue, il y a de plus en plus de pays qui rejoignent, on va dire, ce bloc des pays, j'allais dire non alignés, mais on va les appeler ce bloc de la multipolarité. Et donc pour l'instant, l'opération de l'OTAN est un fiasco complet. C'est pas certain que ça s'arrête. En revanche, il y a un autre aspect, c'est vrai que je serais pas catégorique dans un sens ou dans l'autre, c'est que, effectivement, le Parti démocrate aurait besoin que ça s'arrête maintenant. Soit par une victoire ukrainienne qui force la Russie à négocier, mais on sait très bien que la Russie, elle, n'est pas pressée, que même si l'Ukraine prenait Mélitopol, ça changerait rien. La Russie continuerait. Mais surtout, la pire des choses qui pourrait arriver pour le Parti démocrate, c'est une défaite cuisante de l'Ukraine dans un an, au moment de la campagne présidentielle. Alors là, ce serait pour les démocrates une véritable catastrophe. Donc à la limite, liquider l'affaire ukrainienne, dans un sens ou dans l'autre, c'est, je pense, qu'il y a une partie des élites démocrates qui y sont prêts. Et si c'est liquidé maintenant, ça veut dire que 2 mois après, plus personne n'en parle aux États-Unis. Et les problèmes de politique intérieure vont largement prendre le pas sur ça.
C'était Xavier Moreau, fondateur et directeur du Centre d'analyse politico-stratégique StratPol pour Sputnik Afrique. À notre micro, il a analysé ce que cache la volonté de Washington d'envoyer des munitions uranium appauvries au moment où l'Ukraine a démarré sa contre-offensive. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, Sputnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Nous rendons dès à présent l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de mon émission Zone de Contact. Je vous invite en attendant à consulter notre site internet pour suivre l'actualité africaine et internationale. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.